Nos deux invités de la semaine, Jérôme Peignot et Gilles Germain. Et d'une façon plus générale, je tiens à dire à nos auditeurs que cet après-midi, au fond, notre émission de Lettres Ouvertes s'occupe, si j'ose dire, des États totalitaires, à travers des fictions, mais à travers aussi des documents, des livres universitaires, des études qui ont été faites donc sur différents régimes et principalement sur le nazisme. Et puis également se trouve la correspondance de Rebattet. Alors nos deux invités évidemment ne traitent pas exactement la même époque ni tout à fait le même sujet. Jérôme Peignot, c'est Un printemps à Pékin ou Le triangle botanique, publié donc chez Kalman Levy Marensel, et Gilles Germain a pour titre Inquisition au Quai Voltaire. Un printemps à Pékin, c'est ce qui s'est passé sur la place Tiananmen. L'Inquisition, le titre dit suffisamment ce que c'est. C'est le tribunal de l'Inquisition qui est ainsi décrit au cours d'une histoire qui arrive à un malheureux banquier génois qui est arrêté par l'Inquisition, et nous verrons tout à l'heure ce qui lui arrive. Mais il y a tout de même un point commun entre ces deux ouvrages, c'est encore une fois la manifestation d'un État, ou d'un pouvoir plutôt, d'un pouvoir totalitaire. Jérôme Peignot, vous êtes l'auteur tout de même d'une œuvre abondante, depuis les Jérômiades. Nous nous connaissons depuis les Jérômiades, ça remonte loin, hein, Jérôme.
Oui.
Les trois tomes des Jérômiades publiés aux éditions du Seuil. Les Jérômiades, du reste, c'était une trouvaille, je veux dire, parce que c'était des livres qui tenaient de tous les genres, qui appartenaient à tous les genres. On ne pouvait pas savoir si c'était exactement une autobiographie, un journal, une histoire que vous nous racontiez. Et tout cela était vu par un certain Jérôme, qui ne voyait pas très clair, surtout, c'est ça. Hein, c'est bien la question, hein, c'est bien ça.
La vérité de tout ça, c'est que mon frère, un jour, qui m'entendait beaucoup Jérémier, me dit, mais pourquoi n'appelles-tu pas ça les Jérômiades? Et c'est lui, mon frère, qui m'a donné l'idée de ce titre. En fait, j'ai toujours été frappé, c'est vrai. On commence toujours à écrire en parlant de soi. Et puis, en vieillissant, on se détache de soi-même et on arrive à créer des fictions. Mais j'ai toujours été frappé de constater que les gens se trouvent toujours coincés avec ce problème du journal intime, où le journal est intime et alors on ne le publie pas. Mmh. Ou alors, alors ça n'est pas une œuvre intime et on la publie. Alors voilà, les Jérômiades, c'était d'une certaine façon un moyen de me sortir de cette ambiguïté-là. Et quelque chose qui, donc, n'était pas un roman, mais non plus n'était pas un journal.
Et vous avez inventé une autre forme aussi, qui est les puzzles.
Alors, le puzzle.
Le puzzle, c'est également une façon de se raconter, mais particulière.
Alors, le puzzle, c'est aussi une trouvaille. Au fond, il fallait que à partir du moment où j'appelle mon livre un puzzle, il faut que je réussisse à un morceau près. Hein? S'il y a un morceau de trop, ça n'est pas un puzzle, il est raté. Et s'il en manque un, il est raté aussi. Ouais. Alors, au fond, c'est un roman quand même. C'est le roman d'un esprit, d'une certaine façon. Ouais. C'est comment va-t-il s'en sortir pour réussir son puzzle à un morceau près? Alors, il y a une petite, il y a un fil conducteur, bizarrement, mais quand même, il y a un fil conducteur, il y a même un suspense qui est celui-là.
Mais Jérôme Peignot, il y a une autre passion aussi chez vous, c'est la typographie. Bon, ça, famille, si j'ose dire. Cette famille, seulement vous la pratiquez. La typographie, non pas en fabriquant des livres, mais en étudiant la typographie.
Alors, que je réponde à ça aussi, mon père était fabricant de caractères d'imprimerie. D'ailleurs, c'est la famille de Balzac. On dit même, les mauvaises ou bonnes langues, comme vous voulez, disent que Balzac serait mon arrière-arrière-grand-père. La fonderie de Berny et Peignot, Madame de Berny, vous souvenez-vous de Madame de Berny?
Ben oui, bien sûr.
Il y a le caractère Peignot.
Et il y a le caractère Peignot dessiné par Cassandre. Oui. Mais alors, pour bien marquer les choses, je ne m'entendais pas avec mon père. Mon père était un homme qui serait plutôt du côté de M. Rebattet, justement. Et alors, je disais volontiers que mon père fabriquait des caractères d'imprimerie sous forme de police, Vous savez qu'on disait des polices de caractère. Et je répondais, moi, je vends aussi des caractères, mais dans un autre ordre, celui de l'écrivain. Et ce qui faisait bien, finalement, la différence, vous voyez. Oui. En fait, il n'y avait rien. Le courant ne passait pas du tout entre nous. Bien que je continue de m'intéresser à la typographie, je publie très bientôt.
Mais oui, justement, à l'Imprimerie Nationale.
Un volumineux travail de 480 pages qui s'appelle, et j'ai encore inventé un mot.
Typoésie.
Typoésie. Je me suis aperçu que la typographie et la poésie, au fond, avaient des choses à se dire, et qu'on même, au fond, on ne pouvait pas passer d'un bord à l'autre, que la poésie était partie intégrante de la typographie.
C'était un graphisme. C'était un graphisme, au fond, déjà.
Ah, vous verrez sur le titre, d'ailleurs, je traduis ça par un graphisme. Le mot typoésie est composé de trois caractères différents, mais qui, en fait, ne forment qu'un titre. Pourquoi le signe et le signifiant, le signifié sont indissociables. Du temps de Lacan, on nous parlait beaucoup du signifiant et du signifié, mais j'avais du signe. J'ai voulu rendre à ce signe, au fond, sa place, sur le même, le même niveau, j'aime pas le mot, mais j'en trouve pas d'autre pour le moment, sur le même niveau que les autres.
Donc, vous allez nous dire tout à l'heure, mais je laisse la parole à Evelyne Schlumberger, qui va nous dire de quoi il s'agit dans le printemps de Pékin, mais vous allez nous dire comment vous en êtes venu à Tiananmen. Alors, Evelyne Schlumberger.
Oui, bien moi je trouve que c'est un bel ouvrage, c'est un ouvrage concis, émouvant et très pur que Jérôme Peignot nous donne avec ce printemps à Pékin. Il est dédié à tous ceux de Tiananmen, aux étudiants en révolte qui, en ce printemps, envahirent la plus grande place de Pékin pour une révolution sans violence qui devait, on le sait, être matée dans le sang. Difficile, 4 ans après ces événements, d'en parler pour un écrivain français, enfin semble-t-il. Va-t-il s'agir d'un récit historique, d'un documentaire, d'une méditation, d'une sorte d'ode romanesque à la gloire de ces jeunes héros? Eh bien, la réussite de Jérôme Peignot est d'avoir évité tout cela et abordé son sujet en quelque sorte de l'intérieur. À travers 3 personnages, une jeune fille nommée Mou, et 2 garçons, Li et Yan, ces 3 personnages sont engagés, tous 3, dans une lutte dont ils commencent par croire qu'elle sera victorieuse et pour finir par découvrir qu'elle se terminera en tragique défaite. Ce sont 3 jeunes gens qui ont fait d'avance, avec la plus grande simplicité, le sacrifice implicite de leur vie, et dont 2, en effet, la sacrifieront réellement, mais pour que survive la 3e de ses vies, celle de Mou, et avec elle l'espoir que puisse s'instaurer un jour la démocratie nouvelle que tous ont rêvé. Mou, aimé de Li, et qui aime Yang, lequel l'aime aussi, ont d'autres choses à faire dans ce livre et en pleine révolte que de parler d'amour et même d'y penser. Le livre est une petite merveille d'équilibre entre le drame quotidien qu'ils vivent et l'idéal inaccompli qui demeure en eux, dur comme le roc, entre les mots et les actes, entre la négation de soi et l'accomplissement de soi. Et nous, lecteurs, nous vivons ce que vivent ces 3 jeunes gens. Nous sommes avec eux dans ce Pékin où ils jouent leur va-tout, nous pédalons sur leur bicyclette, nous dormons dans leur sac de couchage, nous entendons s'approcher les chars, nous réalisons que la mort est facile à donner comme elle l'est à recevoir, et nous ne cessons pas non plus de percevoir le chant des oiseaux. Il y a là une observation minutieuse de la réalité, à croire que l'auteur était sur place au moment de ces événements, mieux qu'il était un Chinois comme eux, raisonnant comme eux, à 1000 lieues de l'Occident.
Donc il a un peu l'air chinois, dirait Jérôme Peignot.
En ce moment, à travers ses lunettes, chinois, peut-être. Ouais. C'est à se demander, Jérôme Peignot, si vous avez fait le voyage de Chine pour donner une telle impression de vérité.
Écoutez, non.
Eh bien, c'est peut-être mieux.
Justement. Non, c'est peut-être mieux, je ne sais pas. Mais c'est vrai que quand on se représente un lieu, peut-être on lui donne une réalité prégnante, peut-être plus que quand on est noyé dans l'endroit. Je racontais tout à l'heure cet épisode j'avais un oncle qui était diplomate et qui nous racontait que Paul Claudel n'avait jamais mis les pieds en Hollande. Mon oncle était un diplomate en Hollande, était ambassadeur de France en Hollande, et il me disait, Claudel n'a jamais mis les pieds en Hollande, et il a fait un ouvrage remarquable, admirable, la peinture hollandaise. Bien, voilà. Et puis alors, au fond, si j'y avais été vraiment, qu'est-ce qui serait passé? Je n'aurais peut-être pas vu l'endroit, d'une certaine façon. Oui. Je ne l'aurais pas vu. Je n'aime pas voir les films que l'on tire des romans. Je ne suis pas allé voir La Recherche du Temps Perdu. Je ne veux pas la voir parce que je me fais une représentation personnelle de ce roman. J'ai une idée de la place Tiananmen et j'y tiens d'une certaine façon.
Oui, d'autant que vous le présentez comme un espace justement tout à fait exceptionnel dans la ville de Pékin.
Oui, il est historiquement un lieu très... les Chinois eux-mêmes le considèrent comme un lieu très exceptionnel. Alors, pour que ce soit bien clair, c'est vrai, je me suis servi des événements historiques véridiques sur lesquels j'ai bâti un récit. Hein. Et cela aussi est signifiant à mes yeux. Merci de tout ce que vous venez de dire, parce que c'est vrai, c'est ce que j'ai cherché. À savoir... Les événements politiques ne se passent pas comme ça à l'extérieur de nous-mêmes. Nous sommes impliqués dans les événements politiques, hein, continuellement. Eh bien, c'est ce que j'ai voulu dire. Il n'y a pas d'un côté l'engagement politique de ces jeunes gens et puis d'autre côté leur vie privée. Leur vie privée est liée intimement à leur affectivité et même leur affectivité s'exprime à la faveur d'événements politiques dramatiques.
Alors, mais c'est ça, ce qui se passe entre Yan et Mou, justement. C'est ce qui se passe. Là.
C'est ce qui se passe.
Et on le sent très bien dans la discrétion, comme le soulignait Evgeny Chamberger, dans la discrétion des rapports et des épanchements. Il n'y a pas d'épanchement, il n'y a pas cette espèce de faux lyrisme dans lequel trop souvent on voudrait faire exprimer comme ça des sentiments d'amour et tout ça. Pas du tout. Il est dans des gestes, il est dans une attitude, il suffit d'une main posée, par exemple, d'une main posée sur l'épaule ou sur un bras. Il suffit d'une chose, et ça je crois que, sans avoir été moi non plus à Tiananmen, on est vraiment, dans ce roman, on est dans un climat autre grâce à ces moyens que vous avez employés.
Vous faites plaisir.
On y est, pas pour dire, et pourtant j'y suis jamais allé, mais on sent... que ce n'est pas ainsi que cela se passerait en Occident. Voilà, c'est ça que je veux dire.
Oui, parce que vous avez pénétré ces êtres tout de même. Oui. Et il est très significatif qu'en effet, ils se témoignent leur amour d'une façon qui serait sans doute très différente en France, dans les mêmes circonstances. En mai 68, peut-être, un couple de jeunes qui s'aimaient ne se témoignait pas du tout de la même façon.
Oui, mais alors, avant que Jérôme Pignot ne réponde, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que disait Roger à l'instant, parce qu'il me semble qu'au contraire, et vous faisiez allusion à l'instant, Evelyne, à mai 68, il y a quelque chose qui est très intéressant dans le livre, c'est le dialogue. Et c'est un dialogue qui souvent tourne au discours, un discours très naturel. C'est-à-dire que les étudiants, les personnages principaux, d'une certaine façon, racontent leur position, racontent l'histoire à leur façon, mais dans une organisation quand même très précise. Et cela, justement, personnellement, me faisait penser d'assez près à mai 68. Et je ne trouve pas que ce soit un livre tellement exotique, je mettrais ça entre guillemets, que le livre que vous avez écrit.
Mais on ne parle pas de la même chose.
Non, mais
vous parlez des discours.
Non,
moi, je parle des sentiments.
Et de l'absence de discours. Et de l'absence de discours.
Parce que je crois que vous n'avez pas compris mon raisonnement.
Mais c'est un peignot de résoudre notre léger conflit.
D'abord, les Chinois sont des gens qui me fascinent. Enfin, on dit qu'il y a cinq points cardinaux en Chine. Le Nord, le sud, l'est, l'ouest, puis l'étoile qui brille au-dessus de Pékin, ça fait cinq. Donc, il y a cinq points cardinaux en Chine. Bon, vous avez remarqué à un moment donné que dans cette horreur qui se produit, les assassins coupent les corps en morceaux de ces pauvres étudiants ou de ces pauvres gens qui sont broyés par cette horreur. Coupe les corps en morceaux pour qu'ils ne se reconstituent pas dans l'au-delà. Eh bien, cet au-delà, les Chinois le vivent sans lui donner pour autant une valeur religieuse. Cet au-delà fait partie de leur existence, n'est-ce pas ?
D'ailleurs, Mou le dit elle-même, mais Yan lui demande « Tu crois à l'au-delà ?» Elle dit « Mais bien sûr, pourquoi y aurait-il une solution de continuité ?»
Alors, en vérité... J'attache beaucoup de prix à mon sous-titre.
Le triangle botanique.
Le triangle botanique. En fait, si on n'entre pas dans cette métaphore, car le livre entier est une métaphore. Le livre entier est une métaphore qui se passe en Chine, bien sûr, parce que en regard de ce que je viens de vous dire, cette chose ne peut se produire qu'en Chine. Mais en vérité, nous avons tous un char à affronter, car mon héros est l'homme qui s'est planté devant le char et que tout le monde entier connaît. Nous avons tout le temps dans notre vie, nous devrions avoir tout le temps dans notre vie un char à affronter. Et au fond, c'est ça ce que j'ai voulu dire. C'est une métaphore de nos vies quotidiennes ici, à Paris.
Oui, mais expliquez-nous précisément ce trio.
Alors, ce triangle botanique.
Ce triangle, plus exactement.
Alors, j'en reviens à mon triangle botanique, car c'est mon sous-titre. Un triangle botanique ou un printemps à Pékin, puis finalement, pour les raisons...
On sent que vous auriez aimé que ce soit...
Oui, j'aurais aimé que ce soit le triangle botanique. Mais enfin, bon, ça, il s'en est... Enfin, ça s'est passé autrement... Mais enfin, c'est toujours mon sous-titre. Alors, qu'est-ce que c'est ?
Mais c'était plus facile tout de même de mettre un printemps à Pékin, parce que le triangle botanique, les libraires se seraient demandé s'ils ne sont pas trompés de boutique, s'ils ne voulaient pas mettre ça dans une herboristerie, ou, etc.
Bon, enfin, la photo, d'ailleurs, figure. Alors, il existe, j'ai su ça par un ami à moi, qui est un photographe, Luc Girard, qui est un photographe de géo, et qui a fait un reportage en Chine. Et il existe dans le palais impérial à Pékin, dans le jardin arrière, comme on l'appelle, un endroit qui est réservé aux philosophes taoïstes. Et les philosophes taoïstes sont des jardiniers. Ce sont des philosophes jardiniers. Et alors, ces taoïstes, ces philosophes, disent qu'au fond, l'essentiel, c'est la nature qui le fait. Qu'eux-mêmes ne peuvent pas faire grand-chose, sauf peut-être des boutures. Parce que si on laisse aller la nature, elle ira un peu en désordre. Alors on fait des boutures. Alors on prend deux surjoncs, comme ça, parallèles l'un à l'autre, et puis on les accole et on forme un triangle. Et puis, la bouture faite, on s'en va, on attend. Et au bout de quelque temps, un arbre pousse avec deux troncs et forme un triangle botanique. Or, il se trouve que ce triangle botanique est le symbole de l'amour en Chine. Et j'ai sous les yeux un article d'une amie à moi, qui s'appelle Anne-Marie Christin, qui dirige le centre de l'université de Paris 7, le centre de l'écriture, et qui a écrit un petit article qui s'appelle « L'idéogramme femme » dans l'écriture chinoise. Et voilà ce que je lis, j'ai découvert ça après coup. Ça a été stupéfaction pour moi. Ce sont des formes complexes, les agrégats logiques, ne comportant pas d'éléments phoniques. Pour ces caractères, le sens s'inscrit dans une combinaison d'éléments idéographiques représentant idées et concepts plus ou moins complexes. Prenons par exemple le caractère mu, qui signifie arbre. Donc j'ai donné à mon héroïne le nom de mu, sans savoir que c'était exactement ce que je voulais dire, à savoir qu'elle évoquait cet arbre. Car, alors, par cet arbre, par cette métaphore de cet arbre, cette jeune femme est, au fond, deux jeunes gens sont épris d'elle. Un garçon qui s'appelle Li, qui est un étudiant, et qui est conduit par elle, mais qui par grève de la faim, à la faveur de la... grève de la faim, va mourir sur la place Tiananmen. Un autre jeune homme s'appelle Yan, mon héros, l'homme du char. Lui n'est pas un étudiant, c'est un homme qui travaille dans l'université à titre de représentant de l'administration. Et lui aussi est épris, mais mais il ne peut pas prétendre parce qu'il n'est pas un intellectuel. Et c'est très important cette différence entre les intellectuels et ceux qui ne le sont pas en Chine. Mais alors il veut prouver, au fond, par sa mort, que parce que dès lors que Li est mort, sa position est d'autant plus difficile que son rival est mort. Il est encore pourvu donc d'une dimension
supplémentaire.
Alors il veut, au fond, offrir sa vie pour reconstituer le triangle botanique, et de telle sorte qu'après la mort, raboutez ça avec ce que je disais tout à l'heure, cet arbre botanique se reconstituera, et que leur vie à trois, leur amour à trois, au-delà de la mort, s'accomplira. Car la jeune femme, elle représente les branchages de l'arbre, elle est archéologue, elle va, au fond, comme le voulait Deng Xiaoping, elle va aller en France où elle va poursuivre ses études et revenir ensuite en Chine pour travailler à l'archéologie chinoise. Aller en France comme Deng Xiaoping le souhaitait, car au fond, si le drame de Tiananmen ne s'était pas produit, Deng Xiaoping serait passé pour un des sauveurs de la Chine, ce qui est paradoxal. Alors, il se trouve que, j'explique ça un peu dans le livre, que en fait, Deng Xiaoping s'est laissé entraîner par Yan Jiankun, qui était le président de la République, qui vient d'ailleurs d'être remplacé par un autre géronte, mais ce Yan Jiankun était le président de la République, et c'est lui qui a mené, au fond, cette horreur, qui était le responsable de cette répression, de ce saccage. Mais
Gilles Germain, alors, vous avez pu jeter un coup d'œil sur le triangle botanique, ça vous a changé de l'Inquisition, hein?
Ça m'a beaucoup impressionné, et je dirais peut-être, comme Christian Giudicelli vient de le dire, que ça m'a ramené de manière très curieuse à mai 68. Je ne suis allé en Chine qu'en 80, donc bien avant ces épouvantables événements. Mais les relations que vous établissez entre vos personnages, entre Mu et Yan en particulier, m'ont semblé être, réellement et poétiquement parlant, celles qui étaient évoquées, celles qui ont été suggérées, qui ont été créées par la situation de mai 68, c'est-à-dire la certitude d'appartenir à quelque chose qui est universel, la certitude qu'il n'y a pas de frontières de civilisation ou de culture, et que les gestes que vous-même, Roger Vrigny, à l'instant marquiez, sont des gestes qui reviennent d'avant de notre propre humanité, l'humanité que nous avons dans notre histoire, et vont aller au-delà. Nous les transportons, nous les laisserons à quelqu'un d'autre qui les continuera, qui les reprendra. Et l'évocation du sac de couchage, pour moi, m'a paru une chose plus que délicieuse, si vous voulez, quelque chose qui est totalement intime. J'aurais aimé passer toutes mes nuits dans un sac de couchage en mai 68. J'ai passé que quelques nuits, malheureusement, mais pas toutes. Et ce que vous dites de Tiananmen, je suis allé à place Tiananmen en 80, donc c'était très calme, les photographes étaient en costume d'amiral, avec des boutons dorés, des vestes blanches impeccables, tout ça. C'était une espèce d'harmonie post-bande des quatre.
C'était le décor avant la tragédie.
Il y avait tout un décor. Il était certain que la bande des quatre avait fait beaucoup de mal, donc il suffisait de le dire pour que ça se comprenne. Et il suffisait d'assister au spectacle de la Chine pour se rendre compte qu'effectivement, la bande des quatre avait été dangereuse. Il n'y avait pas de problème à se poser si cet après-bande des quatre annonçait ce qui devrait venir un jour et qui serait ce que vous avez écrit, vous, Jérôme Peignot, dans votre livre.
Il y a tout de même une différence entre mai 68 et le printemps de Pékin. C'est l'issue, n'est-ce pas, en effet. Parce que mai 68, miraculeusement, ça a été une défaite, c'est évident, mais ça a été une défaite, en effet, sans effusion de sang. Tandis que là, c'est épouvantable. Et vous nous le faites sentir, Jérôme. Sans insister trop, c'est au fond cette grande discrétion que j'apprécie surtout dans votre livre.
Mais écoutez, permettez-moi, je vais vous lire ça, mais c'est très court. Vous savez qu'on a libéré Wang Dan, qui est un des héros de Tiananmen, qui a été libéré il y a quelques semaines, 15 jours à peu près, un mois peut-être. Et voilà ce que ont écrit la délégation des étudiants chinois à Paris, des étudiants démocrates. Ces libérations restent des cas particuliers, commente de son côté la Fédération pour la démocratie chinoise. Pékin affirme que plus aucun étudiant ayant participé aux manifestations de la place Tiananmen ne se trouve derrière les barreaux. Allusion à la liste des 21 étudiants recherchés en 89. Mais il reste encore des milliers de sympathisants, soi-disant arrêtés pour des crimes de droit commun, dans le Laogai, le goulag chinois. Et d'après Amnesty International, plus de 780 prisonniers politiques ont été condamnés depuis 1989 dans la seule ville de Pékin, mais des milliers de personnes, des milliers de prisonniers politiques, dont plusieurs centaines de prisonniers d'opinion, sont toujours incarcérés. Les procès sont inéquitables, la torture, la détention prolongée sans inculpation ni jugement et les exécutions extrajudiciaires n'ont jamais cessé. Alors, vous voyez, c'est vrai que la Yougoslavie nous oppresse tous, Mais il ne faut pas oublier que ces horreurs s'accumulent. Et quand cessera-t-on quand enfin les hommes vont-ils retrouver un peu de, comment dire, un peu de cette maîtrise d'eux-mêmes? Et au fond, c'est ça que je voulais dire. Maîtrise d'eux-mêmes. Les événements politiques ne se passent pas en dehors de nous. Nous sommes responsables, comme dit Sartre. Nous sommes ces événements politiques. Et tant que nous n'aurons pas eu le courage d'affronter notre char dans la situation où nous nous trouvons chacun, je vous fais de la morale, là, un peu. Mais c'est vrai, ça n'est pas... La télévision ne nous remonte pas. Ne nous montre pas ces horreurs indépendamment de... Nous ne sommes pas assis dans notre fauteuil comme ça, passifs. Nous faisons partie de cette horreur. Hein. Et c'est ce que j'ai voulu dire, c'est que nous pouvons l'arrêter. Nous pouvons l'arrêter si dans nos vies à chacun, nous faisons ce qu'il faut pour que l'horreur ne passe pas.
Gilles Germain, qu'est-ce qu'on a fait contre l'Inquisition ?
Je ne sais pas si on a fait grand-chose il y a longtemps.
Il y a longtemps.
On a un peu oublié.
Ce que j'aimerais savoir, parce que nous avons interrogé Jérôme Peignot sur ces rapports qui existaient entre lui et Tiananmen, mais vous, quels sont les rapports qui existent entre vous et l'Inquisition? Car vous avez publié donc un très beau roman là, qui s'intitule tout simplement Inquisition.
Sans l'article, oui, je pense que ça en est important, justement.
Oui, bien sûr. Oui, Inquisition. Et j'aimerais savoir un peu le point de départ de tout ça.
Très curieux. J'étais à cette époque-là en poste à Lisbonne et je faisais une visite protocolaire au nouveau directeur de la Bibliothèque nationale. Vous savez que la Bibliothèque nationale de Lisbonne est l'une de ces quelques grandes bibliothèques nationales européennes. Il y a celle de Paris, celle de Londres et celle de Lisbonne qui est en double parce que le roi du Portugal, qui était à l'époque empereur du Brésil, avait décidé d'en faire une bis. Au Brésil, à Rio. Donc c'est une institution majestueuse, une vieille dame, donc j'étais évidemment allé rendre mes hommages au nouveau directeur qui m'a reçu dans le bureau le plus fastueux de la ville. Et je lui demande quelle était sa spécialité, et il me dit « Je suis spécialiste de l'Inquisition ». Alors c'est une spécialité rare et dangereuse. Je venais de toute bonne foi et tout d'un coup je me retrouve en face de quelqu'un qui brutalement m'a inquiété.
Et, un véritable inquisiteur.
Oui, je dirais, à l'époque où au Portugal, tout le monde qui faisait des études supérieures les avait faites à travers la langue française, lui ne connaissait pas le français, ne parlait pas le français, était spécialiste d'allemand. Ce qui est, là encore, une chose étrange.
Étrange rencontre.
Et il me dit, alors encore plus étrange, mais enfin, vous savez, moi j'ai pas de chance parce que je suis spécialiste de l'Inquisition, mais nous n'avons pas eu, nous, ici au Portugal, ces grands inquisiteurs qu'ils ont eus en Espagne. Alors, quelque chose de très gênant, le provincial qui envie la grande capitale et qui se dit, non, et il me cite, nous n'avons pas eu Torquemada, nous n'avons pas eu Valdés, nous n'avons pas eu ces gens-là. Nous avions de médiocres inquisiteurs, très brutaux, très violents, mais qui n'avaient pas le panache. Donc, premier contact. Et puis alors, le deuxième contact, c'était très curieux. J'allais quitter mon poste et la Fondation Gulbenkian m'envoie une caisse de livres publiés en français et en portugais de leurs éditions. Je farfouille dans la caisse et je garde le procès de José Antonio da Silva, le Molière, un homme de théâtre, le Molière portugais qui est mort en 1704. Procès traduit en français, procès d'inquisition. Le reste, j'envoie ça dans mon déménagement, j'allais vers l'Arabie Saoudite. Tout est perdu, sauf ce livre-là que j'avais pris avec moi. Ce qui veut dire que l'inquisition me poursuivait, et j'arrive en Arabie avec ce petit livre, espèce de petit manuel horrible d'un homme de lettres. Un Molière qui avait écrit des pièces burlesques, des comédies, des choses décapantes pour son époque, et pas très bien vues de la société du temps, de l'Église, et qui meurt brûlé à 32 ans, dans une petite boîte, une chaise à porteur, comme on les mettait. Donc on apportait la chaise à porteur au bord du Tage, sur la grande place du palais à Lisbonne, et puis on mettait le feu en dessous. Alors là, l'homme était bâillonné pour qu'on ne soit pas trop incommodé par l'écrit. On l'était déjà par l'odeur, mais au moins pas trop par l'écrit. Puis voilà. Et donc ça, c'était une présence lourde.
Oui, oui.
Et puis j'arrive dans un pays où, effectivement, la tolérance religieuse n'est pas la caractéristique la plus connue. Et donc là, il y a eu quelque chose, un travail qui s'est fait.
Vous étiez poursuivi par l'intolérance, en quelque sorte.
J'étais poursuivi par l'intolérance et poursuivi, d'une certaine façon, par l'espèce de souffle que Diderot, Voltaire, etc. ont lancé. Ces hommes du 18e qui avaient en face d'eux, encore très proche, la question en Espagne existait encore, les supprimés au 19e siècle, avaient les mots, les cris, les révoltes, les expressions qui allaient la rendre totalement insupportable, alors qu'avant, elle était plus ou moins considérée comme un mal nécessaire ou provisoire, ou je ne sais pas. Et là, en arrivant dans 1985, donc fin du siècle, dans un monde où tout d'un coup on se dit, mais il faut retrouver ces mots-là. Et ce petit livre qui m'avait poursuivi s'est rattaché.
Mais alors, Gilles Germain, justement, ce qui m'a frappé, moi, dans ce roman, Inquisition, c'est que vous avez reconstitué le parcours carcéral, pourrait-on dire, de l'accusé, qui est un banquier génois, qui est arrêté comme toujours dans ces cas-là, c'est-à-dire secrètement, tout est secret. Et vous avez reconstitué ce parcours, et le lecteur se dit, Inquisition, on voit des bûchers, on voit des tortures, des appareils de torture. Et là, c'est pas ce qu'on voit, on en voit, bien sûr. Mais ce qu'on voit surtout, ce sont les procédés employés par les inquisiteurs, ou l'inquisiteur en question, pour convaincre son accusé de sa culpabilité. Au fond, c'est une sorte de torture morale avant tout, qui est aussi grave que la torture physique, peut-être même plus grave, étant donné aussi les conditions dans lesquelles il est incarcéré, c'est-à-dire sans lumière, avec presque rien à manger, dans un état, surtout un état, comment dirais-je, où il ne sait rien, il ne sait même pas ce qui lui est reproché, il ne sait pas ce qu'on va ressortir de sa vie, il ne sait pas quels sont les témoignages qui vont être portés contre lui. Et alors, là, ce qui est très bien dans le livre, c'est qu'on est avec lui, on est avec Melchior, et dans lesquels il se rappelle tout ce qu'il a fait. Bon, d'autant plus que ce n'est pas un petit saint non plus, Melchior. Vous avez pris, volontairement, je pense, vous avez pris ce genre de personnage. Ce n'est pas un petit saint parce que c'est un banquier, tout simplement. Je veux dire, bon, c'est un banquier qui, en plus de ça, soutient le gouvernement, lui prête de l'argent, est un homme donc relativement et même très important, mais qui a des amitiés, qui a des lectures, qui a des ouvrages chez lui. Qui peut donc être soupçonné de lire des livres interdits, d'avoir eu connaissance de théories interdites, etc. Mais alors, cette espèce de torture, encore une fois, intérieure, menée par un inquisiteur borné, en même temps, qui répète toujours les mêmes questions, qui essaye de tendre des pièges grossiers dans lesquels le banquier ne tombe pas, et c'est ça qui fait chez le lecteur une espèce qui le met en transe, en quelque sorte. Quand on lit ces interrogatoires, je ne sais pas quelle était la réaction de Jérôme, mais on est en transe, on est à la place de Melchior, on a peur pour lui, etc. Et c'est ça qui m'a frappé le plus dans ce livre, c'est que vous avez évité les effets faciles, en fait. Hein?
C'est aussi un peu ça qui m'a étonné, c'est que l'Inquisition, ou tout au moins tout système totalitaire, pour gagner contre une personne, a besoin de détruire cette personne pour en faire un individu. Comme
Jérôme
Peignot disait, on ne va pas parler des Chinois, ou du milliard de Chinois, on va parler de personnes qui sont chinoises, comme elles auraient pu être d'une autre nationalité ou d'une autre culture. Là, j'ai voulu montrer que, au contraire, l'ambition du totalitarisme, c'est de dire vous n'êtes pas une personne, vous êtes un élément totalement
c'est ce qu'on va substituable
d'une autre.
C'est ce qu'on retrouve dans le nazisme, qui est le premier à avoir lancé cette idée de masse, par exemple. Donc c'est une masse d'éléments.
Si je voulais faire une petite parenthèse,
Clerval,
j'ai lu un récit de Gilles Germain, je ne savais pas qui, qui s'appelle le Palais Stroganov, qui est un très beau récit qui se passe en Russie au moment de Nicolas II, je crois, à peu près à cette époque-là. Et aussi, c'est la même chose, si je me souviens bien, c'est un ministre, un haut personnage auprès du tsar, qui manipule un jeune homme, et il se sert même de ses sentiments amoureux pour lui faire jouer un rôle assez trouble dans une querelle diplomatique ou territoriale. Et c'est aussi une manipulation par personnage interposé pour permettre au régime de parvenir à ses fins.
Vous voulez dire que Gilles Germain était
un peu, je pense. Non, je veux dire qu'il est. Enfin, il semble que l'un des thèmes, ou un thème qui se retrouve d'un livre à l'autre, c'est le thème justement de moyen, de l'arsenal utilisé par tout régime fort pour accomplir ses desseins. Voilà.
Oui, Jérôme Pignon.
Je crois que c'est un très grand livre. Vous avez écrit un très grand livre. Quelque chose aussi qu'il faut dire d'entrée de jeu, j'ai pensé à Julien Gracq. Enfin, le style en est vraiment somptueux. Hein. J'ai trouvé ça somptueux, absolument. Continuellement, des étincelles de volupté s'éteignaient comme à l'aurore les étoiles. L'histoire de la morisque Melchior paye par où il a pêché. Non, ça c'était une remarque que je voulais vous faire.
La voix dorée, ça, tout de suite retenu.
Sa voix dorée comme pépite sous l'eau vive d'un torrent, bouche alerte au plaisir. Enfin, il y a un style magnifique, merveilleux. Mais comme dans tous les grands livres, au fond, chacun peut y trouver son. Pour moi, c'est un roman amoureux. Enfin, cet homme refuse jusqu'au fond de sa cellule, de reconnaître sa responsabilité dans l'amour qu'il a pour cette femme. Et cet amour, au fond, il refuse de l'assumer. Il refuse de l'assumer. Et ça n'est qu'au bout du compte, quand il est dans son au plus profond de son cachot, qu'enfin il admet,
il admet.
Qu'il aime cette femme. Mmh. N'est-ce pas ? Et cette femme, il l'aime, enfin, plus que sa femme, d'une certaine façon. Mais il se dissimule à lui-même. Et au fond, elle est la responsable de toute cette histoire.
Oui.
Hein? En fait, c'est un énorme, gigantesque roman amoureux sur lequel vous avez, conçu, bâti tout un récit, relatant des épisodes politiques. Et ce n'est pas étonnant de votre part, vous êtes un diplomate. Et vous avez retrouvé là même le ton, probablement, des discussions diplomatiques auxquelles vous assistez. Mais au fond, c'est pas ça. Au fond, c'est un roman d'amour. C'est un roman qui oblige quelqu'un à assumer la responsabilité de son acte amoureux. Un peu, au fond, comme mon... C'est peut-être que je tire la couverture à moi. Un peu comme mes héros dans la...
Oui, mais enfin, je suis bien d'accord avec vous, Jérôme Pignon. Mais c'est vrai aussi que tout se passe à travers des interrogatoires. Bon, il y a les réflexions personnelles de Melchior et tout ce qui se remémore de cette histoire avec la mauresque ou la morisque, dans ça, il faudrait savoir. Bon. On dit la morisque ?
C'est-à-dire, je dis la mauresque lorsque c'est lui, parce que c'est le sens noble. C'est celle qui, de non-chrétienne, est devenue chrétienne, donc est devenue plus proche de lui. Et je dis la morisque quand ce sont ceux qui considèrent qu'elle n'est pas complètement chrétienne. Mmh. Elle est une convertie, donc il faudra attendre quelques années ou quelques générations pour être sûr. Donc le morisque, c'est péjoratif. Vous ne faites pas encore partie de la famille. Alors que mauresque, c'est tu es venu vers moi.
Le personnage de l'inquisiteur lui-même est très important, on s'en aperçoit à la fin surtout. On ne va pas dire la fin.
Roger Vrigny.
Qui est cet inquisiteur ? Mais je veux dire, il est tout de même très important.
Je me le suis demandé. Et je ne suis pas sûr, vous savez, Roger Vrigny. J'ai un peu l'impression, je dirais oui, à 75%, si c'est le père qui le regarde.
Oui, c'est ça.
C'est son fils.
Non, mais attendez.
Mais si c'est pas lui,
vous ne m'avez pas répondu.
C'est à 90% qu'il n'est pas.
Alors, on est dans le cachot de l'inquisition.
Oui, là, vous êtes dans le noir.
Non, vous ne m'avez pas répondu. Pour moi, c'est un roman d'amour.
Non, vous avez raison, parce que si, au fond, s'il reconnaissait vraiment, à ce moment-là, il se condamne. Et il pense que pour ne pas se condamner...
Mais oui, il y a ça que vous oubliez, Jérôme.
Il va mentir jusqu'au bout, y compris à lui-même.
Et pour ne pas avouer son amour, finalement. C'est son amour contre sa vie.
Comme son amour est adultérin et qu'il est en contradiction avec un certain nombre de... Et qu'il est le seul élément de preuve qui resterait. Parce que s'il dit oui, effectivement, on dit ah, donc le reste qu'on vous reproche est vrai.
Est vrai.
Tandis que là, il peut dire non, 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 tant qu'il ne dit rien. Il ne peut dire que tout non. S'il dit un petit oui quelque part, vous savez, il y a ce merveilleux film de L'aveu de Costa Gravas où il n'y a rien dans le dossier. Il n'y a rien dans le dossier. On l'accuse, on l'accuse, on l'accuse. Il dit non, non et non. Et puis, il change d'accusateur, il change de personnel, il change d'interrogateur. Et à un moment, il dit, oui, j'ai bien rencontré monsieur. Vous signez, il signe, oui, j'ai bien rencontré monsieur. Et c'est le premier papier qui rentre dans le dossier. Qu'il a signé un bout de papelard, oui,
qu'il n'avait aucune intention. C'est assez tortueux, tout de même.
Non, je crois la châtaigne. Non, c'est pas tortueux. C'est apparemment tortueux, mais en fait, c'est très simple. Je me souviens d'un roman du XIIe siècle qui s'appelait La Châtelaine de Vergy. Oui. Est-ce que je me trompe? C'est l'histoire d'une histoire amoureuse. Alors, deux jeunes gens s'aiment. Mais le roi convoque le jeune homme et lui dit, si tu dis qui tu aimes, alors tu es perdu. Alors, il se trouve embarqué dans une aventure. Il faut, au terme de cette aventure, qu'il se trouve dans la situation d'avoir à sauver son roi ou son amour. Et s'il prononce le nom de la femme qu'il aime, en même temps, il est perdu. Eh bien, c'est un peu la même chose. C'est la même chose que vous avez fait. Si cet homme avoue son amour pour cette femme, il est perdu.
Il est perdu.
Et puis et c'est ça que je trouve très beau.
Et socialement, il ne peut pas l'avouer parce que
ça
devrait être qu'une anecdote.
Voilà.
Ça ne devrait jamais l'avoir engagé à ce point.
Voilà.
Ça ne devrait jamais avoir menacé son existence. En fait, il s'est laissé emporter parce qu'il arrivait à une certaine limite d'un pouvoir qu'il avait acquis. Il s'est allié avec des puissantes maisons, il a acquis finalement l'essentiel. Donc il voudrait faire un banco, mais
il est à côté.
Vous êtes moins diplomate que vous ne voulez le faire croire. Exemple. Je veux sortir de prison parce qu'il est mon ami. Alors vous avez un passage sur l'amitié. Vous m'autorisez, c'est 5 lignes. L'amitié qui si rarement peut exister entre un homme et une femme est plus élevée encore que l'amour, parce qu'elle est faite de dons, de respect, de tendresse et jamais de possession. Elle exige le plus beau de l'autre. Elle est empreinte de compassion pour ses défaillances, mais jamais n'accepte la bassesse, l'excuse. Elle pardonne, elle promet d'avancer. L'amitié est curieuse, ne se lasse pas de découvrir, vit dans l'espérance de recevoir. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est un roman aussi sur l'amitié, parce qu'il y a l'amitié entre cet ambassadeur et ce Cornaro, là. Elle est très belle aussi, cette amitié entre ces deux hommes.
Voilà. Oui, mais l'auteur reste sans voix.
Mais l'inquisiteur,
c'est ce que j'allais dire. C'est tout de même aussi un roman, il y a tout de même un autre personnage, c'est tout de même l'inquisiteur.
Ah.
Bon, vous le passez,
vous
perdez profit, Jérôme Peignot, mais tout de même, il est très important, cet inquisiteur.
Alors, racontons l'histoire de l'inquisiteur.
Oui, très peu, il ne faut pas dire le fin mot, non? Du reste, le fin mot, vous ne le connaissez pas. Vous n'êtes pas d'accord.
Je ne suis pas sûr de le connaître, parce que...
Donc...
Parce qu'il s'en sort, finalement.
Donc cet homme a fait un enfant à une femme. L'enfant a été rapté par des Turcs, enfin, on ne sait pas très bien par qui. Et l'enfant disparaît, évidemment, pendant 30 ans.
Serait-ce l'inquisiteur.
Et puis finalement, voilà, vous terminez sur ce problème fondamental qui est aussi à l'arrière-plan.
Sur cette ambiguïté, c'est-à-dire que la faute... La faute que ce banquier, dans une vie belle, riche, violente, il a donné un coup de couteau à tel ou tel, il s'en est pas mal sorti, il a fait assassiner un autre, il a fait empoisonner, dans le métier, c'était plutôt dangereux. Bon, donc, mais dans une vie quand même riche et rectiligne, secoué par des immigrations successives, parce qu'il a dû faire sa carrière à un autre endroit que là où il est né, etc., il y a une chose, c'est que un de ses fils s'est fait enlever, une chose qui arrivait tout le temps. Il y avait centaines de personnes qui se faisaient rapter d'un endroit à l'autre de la Méditerranée. C'était plutôt dans à certaines époques, c'était plutôt dans un sens. C'était ce qu'on appelait les barbaresques, l'ami Barberousse, etc., faisait ça. Et c'était par milliers chaque année, donc des centaines par mois qu'on allait piquer sur les côtes. On prenait des gens, c'était du bétail, c'était
des esclaves. Y compris les personnages de Molière également. Et toujours les barbaresques.
Personnages de Molière, etc. Bon, mais. Et donc, c'était normal. Ça faisait partie des choses de la vie de l'époque où cet homme, qui n'est pas encore banquier, vit.